la particularité dans l'Occident moderne depuis deux siècles, c'est le statut, y compris l'effet économique, c'est-à-dire qu'ils se mettent à déterminer ou en tout cas à légitimer les décisions politiques. On va valider, on pense à comment habiter le territoire, comment développer des activités agricoles, n'importe quelle activité productive, c'est des questions de rentabilité, de croissance, etc., qui priment. C'est ça qui aiguillonne la décision. Défaire la suprématie de la sphère économique, ça veut dire redonner la primauté à la politique sur l'économique. C'est par la lutte territoriale, par la reprise en main de territoires, comme ça a été le cas sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais dans plein d'autres endroits aussi. Et dans ces cas-là, desserrer l'étau économique, ça veut dire remettre au premier plan des relations fondées sur l'entraide, sur la décision collective, retrouver des formes d'autonomie alimentaire, notamment d'autonomie matérielle, qui permettent d'être moins tributaire du salariat, de ne plus être entièrement dépendant du marché pour survivre, quoi. Et à partir de là, on choisit les façons d'habiter, les façons de mener les différentes activités, en particulier agricoles, parce que c'est quand même ça le cœur du problème dans les années qui nous attendent, hein, c'est de démonter l'agriculture industrielle et de la remplacer par des formes d'agriculture paysanne. Et on considère que ça ne sera possible que si les décisions politiques et la subsistance sont massivement relocalisées.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte. Tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h. Et en rediffusion, le vendredi de 13h à 14h. Réenchanter nos territoires, y construire des solidarités pour prendre soin de tout le vivant, humain et non humain, construire des zones à défendre, s'émanciper de la société marchande, c'est le projet de la gauche de transformation, on ne sait plus trop comment l'appeler, en tous les cas, c'est celui d'Alessandro Pignocchi, chercheur en sciences cognitives et bédéiste, que l'on entendait ici en introduction présenter l'ouvrage qu'il a commis avec Philippe Descola, Ethnographie des mondes à venir, dans la matinale de France Culture. Face à la violence économique et au dogme du profit maximal qui provoque toutes les précarités et les misères que nous connaissons et qui angoissent de nombreuses personnes, répondre par un programme économique est nécessaire. Montrer que l'on peut augmenter le SMIC de suite, que l'on peut taxer les super-profits pour donner aux services publics les moyens de fonctionner, que l'on peut annuler la loi sur les retraites, tout ça, c'est indispensable. Il s'agit de remettre la justice sociale en ligne de mire. Mais on ne peut pas lutter contre les idées d'extrême droite qui prolifèrent aujourd'hui uniquement avec cette dimension matérielle. D'abord parce que l'extrême droite peut aussi faire des promesses de nature sociale, même si on voit s'effondrer la plupart de celles du programme de Bardella au fur et à mesure où on se rapproche du 30 juin. L'analyse économique qui s'appuie sur des logiques de profit et de croissance contribue, elle aussi, à enfermer les individus. Écoutez ce qu'en dit Patrick Chamoiseau, poète et romancier des Caraïbes, dans un très beau texte paru hier dans Libération. Faire front poétique. Le travail, autrefois source d'accomplissement individuel par un arc-en-ciel d'activité, a été réduit à un emploi monolithique, besogne maintenant précaire, dépourvu de signifiance, qui avale sans ouvrage les exactations de la vie. Dès lors, cet affaiblissement de l'imaginaire noué aux précarités essentielles abîme les individuations en individualisme. Il entretient une peur constante de la déchéance sociale. Il cherche des boucs émissaires et nourrit des réflexes de rejet de l'autre, de repli sur soi, de crispation inamicale, dessous les vents du globe, avec des hystéries racistes, sexistes, antiféministes, islamophobes, habitant de grands désirs devenus tristes. Ce maelstrom hallucinant ne saurait se conjurer sur le long terme par des mesures d'économistes ni être minoré face aux immanences écologiques. Avec nous ce soir, pour parler de ces immanences écologiques, nous avons plusieurs invités. En studio, Stéphanie Mariette, scientifique en rébellion, qui milite aussi contre la LGV Bordeaux-Toulouse et pour le train du quotidien, et qui fomente une prise de pouvoir sur l'INRAE avec quelques camarades. Elle nous expliquera comment. Au téléphone, Vincent Lamoulaire, porte-parole de la Confédération paysanne et viticulteur près de Blaye, qui nous parlera des enjeux énormes pour l'agriculture et les agricultrices que représentent ces élections. Au téléphone, Pascal Bourgois, animateur du réseau Libournais en transition, que nous connaissons bien dans Climat de lutte et candidat sur la 10e circonscription de Gironde, celle de Libourne, pour le nouveau Front populaire. Bonsoir tous les trois.
Eh bien, bonsoir.
Bonsoir.
Avec ces trois invités qui, chacun, chacune à leur manière et sur des thématiques différentes, arpentent les campagnes, nous voulons aborder cette question. Comment construire un récit qui fasse vraiment bouger les lignes et mobilise les imaginaires? Comment lutter efficacement contre les passions tristes qui mobilisent l'extrême droite? Comment mobiliser aussi l'imaginaire de ce Front populaire qui, en 36, a réussi à cristalliser les aspirations du monde du travail, à produire des résultats qui modifient encore nos vies aujourd'hui, les congés payés, la réduction de la semaine à 40 heures, les conventions collectives, dans une période où le fascisme gangrénait déjà l'Europe, comme aujourd'hui.
Vous écoutez Climat de lutte sur la clé des ondes avec Sylvie.
Donc nous sommes en ligne avec Vincent Lamoulaire, porte-parole de la Confédération Paysanne. Vincent, tu es viticulteur dans une circonscription qui est pour l'instant, ça ne va peut-être pas durer, espérons, un fief du Rassemblement National, avec à sa tête la numéro 3 du parti, Edwige Diaz. Alors, quelle est ton analyse de la situation politique dans le monde agricole et viticole en particulier ?
Eh ben, globalement, nous, ce qu'on reçoit comme information venant du RN, déjà, par exemple, c'est vraiment un programme agricole assez pauvre. Il n'y a pas de présence déjà dans les instances agricoles assez forte. Bien qu'on ait maintenant le syndicat de la coordination rurale quand même qui transpire un peu vers le RN, voire totalement. Mais globalement, l'agriculture, c'est un peu le parent pauvre du RN, alors qu'ils font des scores hyper forts, dans ma circonscription. Edwige Diaz, je crois qu'elle a fait 40%. Enfin, pas Edwige Diaz, mais aux européennes, ça a fait 40% dans ma circonscription. Donc ça, c'est la réalité, on va dire, des européennes aujourd'hui. Mais c'est vrai que le RN propose uniquement sa vision du localisme.
C'est ça.
Donc, en gros, c'est une agriculture locale pour une production locale. Mais tout ça, c'est vraiment une théorie. Il n'y a pas du tout de fond, notamment par exemple sur les traités internationaux, les traités commerciaux. Ils n'ont pas de position, ils n'adoptent aucune position en termes de vote. Parce qu'en termes officiels, ils sont plus à dire nous refusons tous ces accords. Mais ils s'y opposent quasiment jamais.
À Strasbourg, quand il faut les voter, ils ne s'y opposent pas, quoi.
Voilà, exactement. Et donc ça, c'est, on va dire, la position du Parti National. Et après, bon, bah, la position localement de notre député Edwige Diaz, elle est restée quand même très éloignée de la crise viticole. On a eu la crise viticole qui est quand même bien présente. En tout cas, moi, je vis pas au quotidien, mais presque. Mais du coup, il n'y a pas du tout de prise de conscience. Il y a juste un rejet, en fait. Du système, en gros, c'est voilà, nous sommes anti-système, alors que globalement, on sait que pas du tout. Et voilà, en tout cas, c'est un sujet qui reçoit un écho, quoi.
Oui.
Au sein des vignerons, par exemple. Et donc, effectivement, c'est à nous aussi d'expliquer notre projet. Et globalement aussi, ce qui fonctionne très bien sur le monde agricole, c'est le rejet de l'écologie en général.
Et oui.
Et
ça tombe bien, il n'en est pas question dans le programme de Bardella. Voilà. Donc ça tombe bien.
Voilà, donc ça c'est un sujet généralement qui. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous à la Confédération Paysanne, on est taxé principalement d'écologistes. Voilà, c'est ce qu'on va nous dire. Et souvent de soutenir de l'écologie punitive, c'est-à-dire de soutenir les punitions faites aux agriculteurs. Voilà. Puisque nous souhaitons une agriculture plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse déjà des êtres humains, voilà, des cycles vivants, etc. Donc ça, c'est un fonds de... un fonds de commerce, mais vraiment un fonds de commerce du RN, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, en tout cas leur électorat, se sentent vraiment stigmatisés par ces politiques environnementales, on va dire. Et l'écho du RN, c'est ce qu'on leur dit, en tout cas avec le RN, c'est nous, avec ça, avec nous, c'est fini tout ça. On va revenir à comme avant. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors que nous, on sait que comme avant, ça ne marche pas. Et que par contre, le débat d'idées, ben, on l'a perdu un peu. C'est-à-dire qu'au début, ce débat-là, aujourd'hui, moi en tout cas dans mon milieu agricole, bon, la Confédération paysanne, c'est un syndicat qui est minoritaire, mais on a un gros syndicat, la FNSEA. Toutes ces questions-là environnementales, on est vraiment en train de les décrocher, quoi. On décroche. La dernière crise agricole a montré encore que les pressions environnementales vont être moindres encore. Et donc voilà, c'est sur ce sujet-là, je pense qu'ils ont vraiment un peu diabolisé l'histoire et ils se sont appropriés ce sujet-là. Et ils ont, avec l'appui des médias évidemment,
ouais,
notamment d'un média mais qui est suivi par tous les autres médias Bolloré, c'est vrai qu'aujourd'hui le RN se pose clairement en opposition avec l'écologie, quoi.
Ouais. Et alors, il est anti-système, mais pas au point de lutter contre les lobbies des pesticides, ni les lobbies de l'agro-industrie, bien sûr, puisque voilà, la revendication de légitime des paysans, qui était pendant le mouvement de janvier-février, qui était de vivre de son travail, bien n'est pas prise à bras-le-corps.
Ah oui, voilà, ouais, typiquement. Globalement, moi, ce que je vois du RN, c'est souvent des prises de position. Il n'y a pas de prise de position. Enfin, très souvent, on les voit pas, en fait. On les voit pas, mais pourtant, ils arrivent quand même à rassembler, notamment sur mes circonscriptions, alors qu'on les a jamais vus sur les manifs, on les a jamais vus politiquement exister, juste à dire, oui, nous, on savait qu'il y avait un problème, ça fait trop longtemps qu'il y a trop de normes. Donc ça, ils ont réussi à capitaliser là-dessus. Mais, effectivement, c'est évidemment le revenu qui était le sujet numéro un,
oui,
à prendre en compte lors de cette mobilisation. En revanche, ce qui est sorti de là, c'est effectivement une espèce de mélange de nous ne voulons plus de normes, tout en vivant mieux de notre métier. Mais c'est une certitude que la mobilisation générale, c'est avant tout une question de vivre dignement de notre métier, quoi.
Oui, oui. Et donc la seule sobriété à laquelle appelle le Rassemblement National, c'est la sobriété réglementaire. Il faut supprimer les normes, supprimer les règles.
Oui.
Et sans plus d'explications d'ailleurs, parce qu'ils ont eux-mêmes parfois d'ailleurs contesté les néonicotinoïdes. En 2021, ils avaient alerté sur le fait que c'était des destructeurs d'abeilles. Et en 2023, ils ont réclamé leur réautorisation. Donc là, il y a des choix et des positions, des prises de position qui oscille avec la force du vent, hein, et avec le sens dans lequel il souffle, mais il n'y a pas de cohérence pour une politique agricole respectueuse à la fois du vivant et puis des agriculteurs eux-mêmes.
Oui, non, mais voilà, c'est un peu nous le ressenti qu'on a, c'est qu'ils sont, c'est ce que je disais, ils sont pas vraiment présents sur les sujets agricoles, ils essayent de capitaliser dès qu'il se passe quelque chose. Et évidemment, le monde agricole est en grande souffrance, très très grande souffrance, du fait des chocs climatiques, des chocs économiques, et aussi de la montée de l'agro-industrie. Et donc eux, ils capitalisent sur ces thèmes-là dans des régions comme la mienne à Blaye, où on voit bien la pauvreté s'installer, gangréner le tissu social et agricole. Voilà, aujourd'hui on en est un peu là, mais parce que les politiques précédentes ont laissé tomber vraiment l'agriculture, et continue d'ailleurs, du moins paysanne, et se focalise sur une agriculture très productive, utilisant des pesticides, etc., etc., avec les biais qu'on connaît. Mais par exemple, moi je le vois sur la viticulture, c'est en ce moment, nous on vit un vrai cataclysme en termes de changement, de modèle. C'est-à-dire que bon, en viticulture girondine, on est quand même resté sur des fermes à taille globalement presque humaine encore, oui. Du moins jusqu'aux années 2010, on va dire 2000-2010. Aujourd'hui, ce modèle-là, il s'effondre totalement, le modèle familial s'effondre. Et donc du coup je vois beaucoup de ressentiment chez mes collègues. Évidemment, c'est principalement des idées de repli sur soi que porte le RN qui sont portées en avant, quoi. C'est pas du tout, on n'est pas du tout en train de dire il faut on a fait des bêtises en utilisant trop de pesticides, en voulant trop produire, en voulant inonder le marché. Non, on est plus à dire c'est au contraire les normes qu'on nous a mis depuis 10 ans qui nous ont empêchés de faire ce qu'on voulait. Alors que les réalités économiques, elles sont tout autres, quoi. On est en surproduction chronique depuis plusieurs années. Et ce qui nous a malheureusement sauvés de vivre cette crise avant, c'est les aléas climatiques qui nous ont maintenu, on va dire, la tête productive sous les niveaux habituels de production.
Oui.
Et voilà. Bon, je digresse un peu sur la production agricole, mais
on va y revenir.
En tout cas, c'est vraiment pour dire que c'est quand même assez présent dans le monde viticole, je pense, le vote RN. Et ça fait écho, en tout cas, à pas mal de mes collègues, je pense. Et d'ailleurs, Jordan Bardella est venu
au printemps des vins de Blaye.
Exactement.
Oui. On l'a accueilli pourtant.
Je pense que c'est pas un choix anodin.
Non.
Bon, c'est évidemment un circo de Edwige Diaz. Mais derrière, il est quand même resté quelques heures à se balader entre les allées, voir des vignerons. Donc voilà, il y a un geste électoral, quoi. C'est-à-dire, votez pour moi, je suis avec vous. Hein. Mmh. C'est clair.
Oui. On va te redonner la parole tout à l'heure, Vincent, mais je vais la passer à Stéphanie, qui, elle, intervient dans un monde à la fois proche et éloigné du tien, Vincent. Elle travaille à l'INRAE, donc l'Institut National de Recherche Agricole et Environnementale, et bien sûr sur des questions agricoles qui ne lui sont pas étrangères. Mais Stéphanie milite aussi sur le terrain de la lutte contre cette LGV Bordeaux-Toulouse, et elle est scientifique en rébellion, je le disais tout à l'heure. Comment tu analyses la situation de ton côté, Stéphanie ?
Alors la question, elle est très large. Donc en fait, si je faisais une première réponse à ce que tu disais tout à l'heure sur comment contrer les passions tristes du Rassemblement National, un premier élément de réponse peut-être, c'est déjà par des réponses collectives, par des mobilisations collectives. Je donne un exemple. Nous, quand la dissolution a été décrétée par Macron, à Scientifiques en Rébellion, on a eu un moment de flottement, de panique, d'angoisse, comme beaucoup de personnes. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer avec le Rassemblement National et Reconquête à 40%. Et la réponse qu'on a vite adoptée, c'est finalement un débat collectif sur ce qu'on avait envie de dire, nous, en tant que collectif des scientifiques en rébellion. Et on a assez vite construit un consensus pour produire une tribune et un texte long d'opposition, en fait, à l'accession au pouvoir du Rassemblement National. Donc, s'opposer aux passions tristes du RN, c'est se mobiliser collectivement. Et ça, ça peut franchement se faire en portant des valeurs que le nouveau Front Populaire porte, je pense, qui sont des valeurs traditionnelles, je dirais, à gauche. Hein. D'humanisme, d'équité, de solidarité, tous ces mots qu'on a peut-être un peu trop oublié de mettre en avant. Et qui font du bien et qu'on peut assez vite concrétiser en fait dès qu'on s'engage et qu'on se mobilise, que ce soit contre la LGV ou contre d'autres projets de ce type. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Puis après, j'aimerais répondre un peu réagir à ce que disait Vincent. Et c'est en lien avec une initiative qu'on porte avec quelques collègues. Alors c'est une initiative qui n'est pas en fait en lien avec la dissolution, parce que c'est une initiative qui précède cette dissolution, c'est avec quelques collègues. on s'est lancé dans une réponse collective pour être candidat à la présidence d'INRAE, PDG d'INRAE. Alors, c'est un peu foufou.
C'est pas l'habitude.
Alors, c'est pas scientifique en rébellion. Hein. C'est porté au départ par deux, trois personnes d'INRAE.
Non, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on procède d'habitude. Ce n'est
pas du tout, non.
Chercheurs qui se proposent pour être
Non, et
président.
Le PDG d'INRAE, c'est quelqu'un qui est nommé, en fait, par le Premier ministre. Donc, c'est évidemment une nomination très politique. Et de fait, en fait, nous, on a voulu acter que la présidence d'INRAE, quand on nomme quelqu'un, c'est un geste politique. Et donc, on a voulu porter une candidature collective qui va en fait vouloir affirmer les enjeux écologiques et politiques en fait de cette présidence. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. On l'a fait aussi dans le contexte de la crise agricole de ce début d'année. Et on l'a fait parce que nous, on a envie de dire que en fait l'Institut de l'INRAE porte une responsabilité dans les politiques de recherche et dans les impacts que ça peut avoir dans le modèle agricole qui est développé en France. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que on acte en fait déjà on acte que l'INRA faisait une recherche qui a probablement été très en faveur du modèle productiviste dont parlait Vincent tout à l'heure. Enfin, on en est sûr. C'est-à-dire qu'on a longtemps porté des recherches d'amélioration génétique ou de pratiques agricoles, enfin d'appui aux pratiques agricoles, qui visaient à produire plus, y compris en améliorant génétiquement, que ce soit les animaux ou les plantes. Donc on a été des alliés objectifs de ce modèle. Et là, en fait, ce qu'on constate, c'est que ce modèle agricole, s'il a été un succès en termes de production quantitative, a eu un effet dévastateur sur les écosystèmes agricoles. Et donc là, on peut égrener la catastrophe, en fait. Hein. Donc, toi, Sylvie, t'es engagée dans la lutte contre les pesticides.
Oui.
Donc, on connaît les ravages des pesticides sur les humains, mais aussi sur le fonctionnement de l'écosystème, et y compris de l'écosystème agricole. Donc ça, c'est un premier point. L'impact sur le vivant, donc sur la biodiversité, donc les polluants, enfin les pesticides ont un impact sur le maintien de la biodiversité au champ, et puis l'impact sur la pollution. Enfin, on peut vraiment tout lister. Et donc, nous, ce qui nous a semblé, ce qui était important, c'était de décrire vraiment, enfin, d'acter, de poser l'incompatibilité que nous, on trouve du « en même temps » qui est mené aujourd'hui à INRAE. Donc, on a effectivement un « en même temps » des politiques de recherche. Entre, d'un côté, on va promouvoir, y compris par des énormes projets abondamment financés, des programmes de recherche qui vont favoriser, être en faveur de la robotique, de l'intelligence artificielle, y compris la robotique.
L'agriculture 2.0, comme on dit.
Exactement. Donc, une agriculture assistée, assistée par l'amélioration génétique et au-delà par les New Breeding Technologies, en anglais, là. Donc, améliorations génétiques qui sont en fait guidées par l'outil génomique. Donc, pour la production de nouvelles semences, sous couvert souvent d'adaptation d'ailleurs au changement climatique. Donc on a ça, on a les nouvelles semences, on a la robotique, l'intelligence artificielle. Donc, et en même temps, donc on mène ces types de projets à INRAE, et en même temps, l'Institut mène des recherches en agroécologie ou bien en agriculture biologique, et y compris sous forme de synthèse, c'est-à-dire que j'ai des collègues à INRAE qui ont produit des synthèses qui démontrent comment on pourrait nourrir la population avec une nouvelle façon de produire, écologique. Donc ça, on sait faire. Et pour nous, ça nous semble incompatible. Et c'est un peu ça qu'on avait envie d'écrire dans la lettre d'intention. Donc on a vraiment envoyé, hein, en fait, pour candidater. Le dernier point deux autres points qui nous paraissent importants, nous, c'est d'assumer notre rôle de contre-pouvoir face aux intérêts privés et politiques, avec une fabrique du doute qu'on a vue à l'œuvre d'ailleurs sur les pesticides. Et puis nous, on a envie aussi de porter une idée. Alors c'est notre candidature, elle est soutenue par une association qui s'appelle Science Citoyenne,
oui.
qui est très attaché à remettre, à questionner les politiques de recherche avec les citoyens, donc à repartir vraiment par la base pour construire les programmes de recherche et pour les implémenter.
Eh bien, merci Stéphanie. Pascal, tu es toujours en ligne avec nous. Pascal, toi, tu es aussi au front, pourrait-on dire, au front populaire, dont tu es le candidat sur la circonscription de Libourne. Et c'est une circonscription difficile, elle aussi, comme le Nord-Gironde, hein, et une partie de l'arc de pauvreté qui a au nord de la Gironde, passe par Sainte-Foy-la-Grande. C'est une des communes les plus pauvres de France, je crois. Le sentiment de déclassement social doit être très fort là-bas aussi. Quel est ton regard sur la situation et comment tu réagis à ce qu'ont dit Vincent et Stéphanie ?
Oui, moi je commencerai par me poser la question de savoir d'où vient cette situation. Elle n'arrive pas de nulle part. Oui. Elle est produite, de mon point de vue, par effectivement des décennies d'un modèle économique, social, politique. Je veux dire que les gouvernements qui se sont succédés de droite comme de gauche depuis des décennies ont cherché à faire des rouages de la production et de la consommation. À aucun moment il a été voulu de développer des politiques d'éducation populaire, de faire en sorte que les citoyens deviennent plus autonomes, avertis, qu'ils puissent construire effectivement leurs propres opinions. Donc on est effectivement dans l'aboutissement de la construction d'un modèle dont on paie aujourd'hui donc le prix. Quelle est la perception, justement, essayons de comprendre un petit peu, de nous mettre à la place des gens qui votent Rassemblement National. Depuis des décennies, ils ont le sentiment que les gouvernements qui se succèdent, de droite comme de gauche, finalement les trahissent systématiquement.
Oui, oui.
Que finalement, ces hommes politiques, ces femmes politiques n'ont pas, eux, d'autonomie, que finalement, ils sont les porte-parole des lobbies. Puisqu'on parle d'agriculture, on peut considérer d'une certaine façon que le ministre de l'Agriculture, c'est une plante verte. Le réel ministre de l'Agriculture, c'est le secrétaire national de la FNSEA, dont 80 à 90% des demandes sont acceptées par le gouvernement.
Et on peut poser par le Rassemblement national.
Alors, effectivement, aujourd'hui, si on va dans le sens du vent, ben, ça s'accentue effectivement dans cette direction. C'est aussi le fait que, on a eu, par exemple, le référendum de Maastricht qui avait été rejeté à 55%. Et deux ans plus tard, on a une loi qui, finalement, contourne la volonté des citoyens. Et donc, c'est une colère donc, qui s'est installée et une colère qui s'est, au fil du temps, transformée en haine et en détestation de tout pouvoir politique. Il n'y a plus aucune confiance. Là, dans les périodes électorales, on rencontre beaucoup de gens dans les porte-à-porte, dans le tractage. Et je veux dire, ça, c'est le tous pourri, il est effectivement régulier et d'une certaine façon compréhensible. Moi, j'avoue que je pense qu'ils ne dirigent pas leur colère dans la bonne direction, mais je comprends la colère de toute une partie de la population qui ont le sentiment qu'effectivement, on se fout d'eux et qu'effectivement, d'une certaine façon, les élites ont trahi, ne trahissent que pour leur propre intérêt et qui ne s'intéressent pas effectivement à la situation des personnes. Depuis des décennies, ces publicités, marketing, consomme, ferme ta gueule, globalement, on multiplie finalement les désirs, les propositions de consommation sans en face donner les moyens à tout le monde de satisfaire ses besoins de consommation, ce qui génère effectivement d'énormes frustrations. On trouve beaucoup d'irrationalité. C'est vrai que dans le questionnement que tu poses, hein, comment mobiliser l'imaginaire, déconstruire l'argumentaire, on se rend compte qu'on n'a pas face à nous des personnes qui sont rationnelles.
Mais oui.
C'est complètement irrationnel. Donc,
elles refusent même parfois de débattre. Elles refusent la discussion rationnelle.
Oui, parce que finalement, souvent, il n'y a pas d'argument. Donc effectivement, c'est du ressenti, il y a vraiment une rupture entre, d'une certaine façon, une certaine élite urbaine intégrée, gagnant bien sa vie, citoyen du monde, voyageant partout aux quatre coins de la planète. Enfin, on a plein de copains qui ont des enfants, qui bossent à Hong Kong ou n'importe où. Enfin, on a ce monde urbain-là, et quand on est, nous, dans nos zones rurales, ben, on a des gens qui, d'une certaine façon, sont encore assez proches, quelque part, du 19e siècle, de la façon dont on vivait, d'un ancrage sur le territoire, de relations familiales, etc. Enfin, il y a effectivement une rupture entre ces deux mondes, quoi.
Oui, mais c'est une vision un peu... C'est une vision un peu fantasmée de l'ancien monde, de la ruralité, et qui ne marche que pour être opposée aux bobos des villes. C'est pour faire une dichotomie, quoi. C'est l'agrarisme dont ça, qu'utilise le Rassemblement national, et s'appuie sur des visions complètement fantasmées de cette ruralité.
Oui, mais qui correspond à des ressentis de personnes qui ont le sentiment... selon les territoires, il y a les territoires où il y a effectivement pas mal d'immigrés, mais il y en a d'autres où il n'y en a pas un seul, et où il y a la même perception de l'immigré fantasmé, avec aussi probablement quand même un fond de racisme qui était sous-jacent, et on n'a pas digéré la guerre d'Algérie, ce qui s'était passé, etc. Et c'est ce racisme aussi là qui ressort et qui s'amplifie de plus en plus. On est confronté, je crois, à une société qui est en perte de sens. Finalement, aujourd'hui, c'est quoi ? Pourquoi vit-on, quoi ? En gros, c'est faut capter le maximum de ressources pour pouvoir jouir au maximum de la vie, ben, en attendant que notre tour passe et qu'on laisse la place à d'autres, quoi. Enfin, je veux dire, on fait pas société sur ce qu'on a développé effectivement depuis des décennies.
Oui.
Maintenant sur un peu des éléments de réponse, enfin autant qu'on puisse en avoir, parce que là, j'ai malheureusement pas la baguette magique, hein, mais quand on évoque effectivement la notion d'imaginaire et de récit, je suis convaincu qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas le bon niveau encore d'intervention. Le programme du Front populaire, il est nécessaire, indispensable, comme effectivement pour faire barrage aujourd'hui au risque d'extrême droite. Mais je pense que ça reste des mesures, ça reste un programme. Et ce n'est pas, de mon point de vue, un projet de société.
Oui.
Je pense qu'on n'a pas encore trouvé les bons arguments, la façon de décrire la société telle qu'on la voudrait, avec effectivement toutes les implications, enfin, la dimension relationnelle, la coopération, etc. Enfin, on est sur une société exacerbée. Après, moi, je pense que sur les éléments de réponse, il y a effectivement le travail... électoraliste, entre guillemets, qui est fait par les différents partis, qui est nécessaire, mais je pense qu'il est insuffisant. On commence à voir pas mal de gens, effectivement, qui sont dans des actions locales contre les projets climaticides. Hein. On a parlé de la LGV, mais ça peut en être d'autres. Hein. Et là, effectivement, on voit effectivement des organisations qui se mettent en place, un travail de fond. Mais je trouve qu'on n'est pas assez présent sur les actions pour. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne peut pas aussi faire société que dans le contre. Il faut à un moment donné aussi être en capacité de travailler sur des alternatives. Et ça, je trouve qu'on est un peu pauvre. Et sinon, sur le fond, moi, tel que je ressens les choses aujourd'hui, on ne pourra refaire société que si on redonne le pouvoir aux citoyens. Moi, je suis assez libertaire, quelque part, dans mon approche. Je pense que, d'une certaine façon, le pouvoir rend fou et corrompt, et qu'aujourd'hui... on a des gens très bien qui, à un moment donné, se retrouvent aux manettes, et puis progressivement, au fil du temps, ils sont retournés par le système et arrivent à faire l'opposé, finalement, de ce qui les a amenés en politique, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux, et là, peut-être que les prochaines municipales pourront être un terrain d'expérience intéressant, il va falloir, effectivement, je pense, essayer de mobiliser le plus largement possible et de faire la promotion d'une démocratie directe, horizontale. Je cite souvent l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, où on se rend compte que des citoyens lambda, si on leur donne les bonnes informations, dans des bonnes conditions, effectivement, ils sont capables de proposer les bonnes réponses, quoi. Il y a aujourd'hui une méfiance des élites par rapport au peuple, considérant qu'effectivement, ils sont forcément toujours dans l'excès, qu'ils ne comprennent pas, que c'est trop compliqué, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de redonner le pouvoir aux citoyens, malgré le risque que ça comporte, hein, puisqu'on voit bien que près de 40% de nos concitoyens aujourd'hui sont sur des logiques quand même très proches de l'extrême droite, donc c'est en même temps quelque part un peu dangereux, mais en même temps, moi je ne vois pas d'autre façon que de redonner le pouvoir aux citoyens pour arriver à agir. Et je suis de plus en plus convaincu que les solutions ne sont pas descendantes, même si effectivement on avait que des élus et des techniciens bienveillants, plein de bonne volonté, etc. Aujourd'hui, on est confronté à une nécessité de révolution. Depuis 30 ans, on refuse la transition écologique et sociale. Donc aujourd'hui, c'est une révolution qu'il faut mener. Sur le plan climatique, par exemple, diviser par deux globalement notre production de gaz à effet de serre d'ici 2030, on est en 2024. Je veux dire, à un moment donné, qui peut aujourd'hui penser, imaginer, croire qu'on va réussir? Donc ça veut dire qu'on accepte l'inéluctabilité du dérèglement climatique et de toutes les catastrophes effectivement qui vont venir derrière. Et je pense que ce sentiment aussi de trajectoire qui nous mène vers le mur contribue aussi à cette espèce de malaise, de dépression collective, quoi. Et pour conclure, je pense qu'effectivement, c'est vraiment ce travail autour de l'imaginaire d'un nouveau récit qui doit être au cœur de notre travail pour réussir effectivement à faire bouger les choses.
Merci Pascal, on se retrouve dans quelques minutes après une chanson d'Ashka Saltimbanque.
Non, ce n'est pas la vie en rose, ni la vie de bohème. C'est un combat qu'on te propose, au nom de tous les gens qu'on aime. Pour la terre et le vivant, en défiant l'air du temps. Faisant face au vent des viands, fidèle à nos rêves d'enfants. Une vie de rêve et de combat, la terre pour seul emblème. Ni terroriste, ni en la loi. Une faille dans leur système. Une vie de rêve et de combat. Au nom de tous les gens qu'on aime. Ni consommateurs, ni soldats. Une faille dans leur système. On dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on dit. On avance et on trace. Sonner l'alerte, c'est interdit. Nous sommes une menace. Les chiens de garde font la loi. Tous les soirs à la télé. À la solde des grands lobbies. Dis-moi, combien sont-ils payés? Une vie de rêve et de combat. La terre pour seul emblème. Ni terroriste, ni en la loi. Une faille dans leur système. Consommateurs ni soldats, une faille dans leur système. Pour eux, tout se prend, tout s'achète. L'honneur, la vie, la liberté. Le doigt posé sur la gâchette voudrait contrôler nos pensées. Mais nous avions semé nos rêves. Voilà que fleurit la relève. Une nouvelle génération se lève. Une autre faille dans leur système. Une vie de rêve et de combat. La terre pour seul emblème. Ni terroriste, ni en la loi. Une faille dans leur système. Consommateurs ni soldats, une faille dans leur système. Une vie de rêve et de combat, la terre pour seul emblème. Ni terroriste ni en la loi, une faille dans leur système. Une vie de rêve et de combat, au nom de tous les gens qu'on aime. Ni consommateurs ni soldats, une faille dans leur système.
Voilà, c'était Ashka Saltimbanque, une vie de rêve et de combat, un petit écho à ce que nous étions en train de débattre. Et c'est aussi un écho parce que j'en profite pour annoncer que Ashka sera en concert gratuit vendredi soir à 19h au Parc de l'Épinette à Libourne. C'est bien ça, Pascal? Je crois que c'est ton équipe de campagne.
C'est bien ça, mais n'hésitez pas à arriver un petit peu plus tôt puisque nos interventions se font à 18h, donc ne venez pas que pour les concerts, venez aussi nous écouter.
À 18h, les concerts, donc au Parc de l'Épinette, c'est ça?
C'est ça, oui, tout à fait.
Alors, donc, nous avons au passage fait un peu le tour donc, des grands axes de la conception anti-écologique, on pourrait dire, donc, du Rassemblement National, ce concept de localisme, le technosolutionnisme, puis l'agrarisme, une écologie qui est toujours taxée de punitive. Il y a eu des débats déjà dans la région, des débats autour de, par exemple, le ramassage des ordures ménagères, qui ont permis, dans le Nord-Gironde, par exemple, au Rassemblement National de surfer sur cette question d'une écologie punitive. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Pascal ou Vincent ?
Oui, enfin, vas-y Vincent, vas-y, je t'en prie.
J'ai déjà dit, effectivement, sur l'agriculture, c'est vrai que... Alors, sur les ordures, j'avoue que j'ai pas hyper bien suivi le dossier, mais disons que le miroir dans l'agriculture, je le vois très bien, et effectivement, c'est-à-dire qu'on va dire... aux citoyens, vous voyez maintenant, à cause de l'écologie, voilà ce que vous êtes obligé de faire, quoi. Et je le vois l'équivalent dans l'agriculture, où globalement, quelqu'un qui a 70 ans, peut-être 60 ans, qui a fait 40 ans dans l'agriculture, a eu une période où il y avait très très peu de pesticides, hein, très très peu. Il en a vu arriver plein, des super efficaces, des vachement bien. Et puis après, on lui a dit, mais en fait, ce que tu as utilisé, c'est mauvais pour toi, pour toi, pour l'environnement. Et en plus, maintenant, c'est interdit. Et donc, on a trouvé des nouveaux. Mais maintenant, tu vas les utiliser avec des tenues de protection qui ressemblent plus à des cosmonautes qu'à autre chose. Mais voilà, donc... Tout ça, en fait, la logique veut que de l'autre bout de la chaîne, on a l'impression que c'est la faute des écologistes, hein, que du discours écolo, alors que la réalité, elle est tout autre, et que en fait, on essaye, nous, par exemple, la Confédération Paysanne, évidemment, on se dit, en fait, nous, on est les premières victimes de ce discours-là.
Exactement, j'allais le dire. Le changement climatique en agriculture, c'est une catastrophe.
Alors le changement climatique, l'utilisation des pesticides, c'est d'abord nous les premiers qui nous utilisons, et évidemment c'est nous les premiers exposés, et tous les mensonges qui tournent autour, quoi. Donc oui, bien sûr, on subit ce discours-là, on subit, et effectivement c'est le discours du libéralisme, et qui est largement... récupéré par le RN qui dit, vous voyez, c'est la faute des écologistes si on en est là. Voilà. Donc,
Pascal, tu voulais compléter ?
Oui, c'est effectivement le Smicval, hein, donc, qui est situé sur le Libournais, une partie du Libournais, la Haute-Gironde, effectivement, qui est concernée. On est sur une approche où, effectivement, les déchets ont plutôt tendance à augmenter et le coût de traitement de ces déchets a explosé. Donc effectivement, on est face à des élus, des techniciens qui cherchent à optimiser, à réduire les coûts. Et effectivement, une des façons de le faire, c'est d'arrêter effectivement la collecte au porte-à-porte et avoir des points de collecte collectifs dans les villages, dans les quartiers, etc., où on invite les gens à amener eux-mêmes leurs déchets. Mais effectivement, ça a provoqué une bronca avec... des raisons qui, pour certaines, sont assez pertinentes. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, sur le plan des paysages, on peut s'interroger. Enfin, on va avoir des containers très colorés qui vont être installés à des endroits très visibles, etc. C'est pas spécialement oui. Esthétique. On sait qu'effectivement, à un moment donné, il faut une clé pour pouvoir mettre les déchets, etc. Bon, il y a des gens qui vont venir déposer leurs déchets au pied de ces containers et ça va traîner, ça va rester. Donc, c'est là aussi, esthétiquement, c'est pas très intéressant. On peut aussi s'interroger sur les personnes âgées qui, quelque part, peuvent avoir des difficultés ou des personnes handicapées qui vont devoir confier ce travail à d'autres, etc. C'est probablement le plus rationnel, mais c'est l'approche technocratique, c'est-à-dire à un moment donné, on est dans la rationalité absolue où, effectivement, c'est sûrement... plus économe, plus écolo, d'avoir moins de camions qui tournent, etc. Mais en même temps, on fait pas le vrai travail de communication, d'information, de sensibilisation. On met les gens dans le fait accompli. Alors effectivement, chaque commune a un représentant au SMICVAL, mais quelque part, ce représentant, il fait pas forcément les retours dans son conseil municipal pour informer. Donc ceux qui le préconisent considèrent qu'ils ont fait le travail d'information, mais en réalité, ça s'est pas réellement fait. Alors que le problème de fond, finalement, c'est pourquoi tous ces déchets, quoi. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas une vraie politique pour réduire drastiquement à la source les productions de déchets? Et c'est ça finalement le problème. Mais là aussi, on retrouve le poids des lobbies qui, quelque part, ont leur modèle qui fonctionne, qui tourne, et ils n'ont pas envie de le voir évoluer. Donc on est sur une situation où ce n'est pas le bien contre le mal, le noir contre le blanc. On est sur des situations complexes où effectivement, il faut faire de la pédagogie, ce qu'on ne fait pas suffisamment.
Voilà, et le RN a surfé sur le mécontentement des gens, de plus, en ayant beau jeu de dénoncer l'écologie punitive. Stéphanie, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, alors, sur l'écologie punitive, nous, on a l'habitude de dire que la grande punition, ce sera effectivement... Enfin, on est déjà puni par le dysfonctionnement écologique, en fait, c'est ça, la punition. Il n'y a pas de politique écologique écologiste sérieuse. Et donc, le changement climatique et tous les dérèglements écologiques dus au franchissement des limites planétaires, finalement, ça, c'est la punition. Enfin, nous, c'est ce qu'on a l'habitude de dire à Scientifiques en Rébellion, on n'est pas les seuls. Donc évidemment, ce terme d'écologie punitive, il est utilisé comme épouvantail. Enfin, on voit bien que c'est pour contrer toute réglementation qui viserait en fait à changer soit... Alors ici, effectivement, ça, c'est le ramassage de déchets, parce que j'imagine qu'on fait des économies effectivement de circulation de camions. Ailleurs, effectivement, réduire la consommation de pesticides. Mais moi, ce que j'aimerais rajouter, donc qu'on n'a pas encore dit sur le Rassemblement national, c'est que partout, quel que soit le sujet qu'on regarde, que ce soit l'agriculture ou les transports, je pense qu'on ne va pas avoir le temps de parler des transports, en fait, le RN, c'est le parti, tu l'as dit aussi, Sylvie, ils sont dans un espèce de passé fantasmé. C'est un parti, en fait, du statu quo en termes environnemental. Leur localisme, en fait, c'est basé sur une idée de nationaliste, mais je pense qu'ils ne sont même pas capables d'expliciter quel serait effectivement l'intérêt de repenser éventuellement une agriculture liée au local. Ça, c'est un vrai sens biologique.
Parce que Vincent l'a à peine effleuré, mais si on ne vend pas notre vin à l'étranger, je sais que Vincent, tu es cette position, ça va être difficile de bloquer des importations d'autres produits agricoles et de se fermer la porte pour exporter nos propres produits. Donc très souvent, c'est des questions qui ne sont même pas évoquées dans les discours du RN.
Exactement. Donc en fait, leur localisme, c'est pas une politique, c'est absolument pas une politique écologique. Et vraiment, c'est un statu quo, c'est-à-dire voir effectivement un retour en arrière, puisqu'ils n'encouragent pas du tout une quelconque transformation. Et moi, sur le modèle agricole, je pense effectivement qu'ils ont une vision très fantasmée de la ruralité. Et je crois que c'est aussi lié à une espèce de vision également patriarcale qu'on va trouver dans leur parti, où ils fantasment aussi un peu la vision du paysan des années 40-50, qui était maître chez lui, avec sa famille autour. Donc je pense qu'ils ont encore un peu cette vision-là aussi familiale, etc. Donc il y a tout ça qui est dans le parti, à mon avis.
Tout en acceptant le développement d'une agriculture industrielle avec des fermes de 1000 hectares, des fermes-usines de 1000 vaches, choses ahurissantes qui ne correspondent pas à ce...
Pas du tout à cette vision,
De la ruralité.
Fantasmée, ouais.
Et en fait, à l'arrivée, il n'y a pas plus pro-système que le Rassemblement National, puisqu'il Il milite systématiquement sur toutes ces questions pour le maintien des pouvoirs existants.
Alors après, moi, si je peux juste rajouter quelque chose par rapport au programme du nouveau Front populaire, à ce que disait tout à l'heure Pascal. Alors, effectivement, on peut regretter qu'il n'y ait pas de grand récit mobilisateur. Effectivement, peut-être qu'il ne faut pas faire que contre. Mais par contre, l'intérêt de toutes les mobilisations qui sont au plus près des territoires, au plus près de contrer tel et tel projet local, je pense que l'intérêt, c'est toujours dans, non pas la défense d'un truc fantasmé, mais simplement la défense du maintien juste de terres cultivables. On retrouve beaucoup cette idée dans pas mal de luttes locales. Et personnellement, je pense que ça, c'est mobilisateur pour construire un récit. C'est-à-dire, si on veut ne serait-ce que penser la souveraineté alimentaire dans le sens réfléchir collectivement à ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on produit, pourquoi et pour qui, déjà, la base, c'est de préserver les terres cultivables et lutter contre tous ces projets. Donc ça, c'est la base, et je pense que ça peut être porteur de mobilisations qui sont positives. On est pour la préservation de ces terres parce qu'on est pour une production diversifiée de ce qu'on a besoin, etc.
Voilà. Et toujours dans les mêmes contradictions, le Rassemblement national est contre le zéro artificialisation nette qui s'oppose justement à l'appréhension de ces terres agricoles.
Exactement, et je pense qu'ils ont largement embrayé le pas de Gérald Darmanin quand il a traité les écolos un peu radicaux d'éco-terroristes. Je pense qu'ils ont
tout à fait
embrayé.
Vincent, peut-être un petit mot de conclusion.
Pour conclure, ouais, c'est vrai que cette question du localisme, elle a plusieurs contradictions chez eux, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ça peut avoir un écho, notamment sur un électorat de gauche. On se dit, c'est le bon sens, finalement, le localisme, produire local, consommer local. Mais, par exemple, en tout cas, dans leur programme, il n'y a aucun fonds. Il n'y a aucune idée vraiment d'installation d'une vraie économie, paysanne locale, quoi. Et donc, en fait, c'est une coquille vide. Et typiquement pour l'agriculture girondine, le localisme, c'est quand même une révolution, mais assez démentielle. puisque c'est beaucoup de production viticole pour beaucoup d'habitants. Donc le localisme, ça veut dire une diversification de cultures assez importante.
Boire que du vin, en fait.
Et... c'est hyper calorique, hein, puis ça se conserve facilement, donc je vais pas... Après, il y a l'hygiénisme, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est une révolution hyper importante et du coup on voit bien que dans le localisme on est là pour séduire, c'est-à-dire on va rassurer les gens un peu comme ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire qu'on rêve à un passé où le paysan il portait le lait, il allait, c'est tout ce qui n'existe plus finalement, vous inquiétez pas, ça va revenir. On voit bien que c'est absolument plus du tout la même société et qu'elle est absolument pas prête à ça. On n'est pas prêt du tout. Et en fait, c'est un fantasme, vraiment, quoi. Le localisme, pour le coup, c'est encore un fantasme. Et nous qui les voyons quasiment jamais dans tout ce qui est instance agricole, on peut que voir que c'est du vent et qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas d'idée derrière, à autre fait que qu'on veut du local, quoi. Ouais. Vraiment, c'est le mot peut-être que je dirais à la fin. Et aussi que nous, les paysans, on est finalement dans un monde aussi, enfin dans un environnement très très RN, je pense. Et que c'est difficile effectivement d'avoir des arguments de fond vraiment sur ces sujets-là. Et il y a évidemment ce projet de société, on a besoin de ce projet de société vraiment. Ça passera pas par la politique et les élus. Évidemment, ce Front populaire, il est bienvenu parce qu'on a peur de la poursuite. Mais le transformation de la société, il doit être là, sinon ça ne marchera pas, quoi. Il y a vraiment beaucoup trop de blocages institutionnels et même social pour qu'on arrive avec le Front populaire à maintenir le RN très loin de tout ça, et leur idée. Mais en tout cas, il faut quand même porter
C'est indispensable.
C'est indispensable, bien sûr. Mais ça ne suffira pas.
Voilà. Je te coupe un petit peu, Vincent, oui, parce que avant de nous quitter, deux annonces qui vont suivre.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Et oui, samedi dernier, 23 juin, c'était la dernière de C'est bientôt demain, l'émission d'Antoine Chao, tous les dimanches après-midi. Cette émission est une victime de plus de la purge que traverse France Inter et tout le service public, alors même que l'extrême droite n'est pas officiellement au pouvoir. Il semble qu'à la direction de France Inter, si. Depuis 6 ans, Antoine sillonne les luttes écologiques partout en France et nous l'avons souvent croisé autour des chantiers des Bassines, dans le Marais Poitevin ou dans l'Allier, sur le chantier de l'A69, dans les luttes contre les grands projets inutiles comme la LGV Bordeaux-Toulouse. Antoine a aussi offert l'an dernier aux bénévoles de la Clé des Ondes un stage de création sonore, inventeur de sons, inspiré par Yann Parentoen, créateur, compositeur, réalisateur sonore. Antoine a mis tout son talent au service de nos luttes et il y a fort à parier qu'il ne va pas s'arrêter là. La Clé des Ondes continuera d'œuvrer avec lui dans le cadre de Radio Uz, la radio du Festival du Zest. Rendez-vous fin août sur 90.10 pour la rediffusion des émissions. C'était donc bientôt demain, mais la vie ne s'arrête pas là. Nos combats communs pour une radio populaire, engagée, dans des débats de son temps, pour une radio qui refuse la mainmise du marché et qui essaye de mettre le meilleur de sa créativité au service de ses auditeurs, vont continuer. On vous met le lien pour la dernière émission d'Antoine. Et enfin, nous ne saurions clore cette saison sans vous évoquer la semaine de l'eau qui se prépare pour la mi-juillet à Melle dans les Deux-Sèvres. Nous avons évoqué sur cette antenne le convoi qui partira de Bordeaux et fera étape à Prignac et Marquant le 13 juillet, accueilli par l'association Alerte Pesticides. D'autres convois très nombreux se préparent. Renseignez-vous sur le site de BNM. On vous met le lien sur l'article de cette émission pour avoir tout le programme de cette semaine passionnante à Melle. Et je crois savoir que la Confédération paysanne sera là massivement, et que peut-être Pascal Bourgois, qui est un fidèle de ces manifestations, y sera aussi. Et peut-être Stéphanie aussi, avec les scientifiques en rébellion qui font partie du programme. Merci à vous trois, Pascal, Vincent et Stéphanie. Vous êtes toujours là ?
Nous sommes toujours là.
Merci Sylvie.
Nous vivons tes paroles.
Et voilà. Et comme c'est la fin de cette saison, on vous dit à la rentrée prochaine cette fois-ci. Merci à Nathanaël pour la technique de cette émission. À bientôt sur Climat de Lutte.